La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Bon, premier sujet ce matin, la fonderie Orne, mais tu regardes ça sur, avec l'angle économique.
Oui, l'angle, en fait, de l'image financière, l'image marketing, l'image de la ville. Et on peut parler de la fonderie Orne puis dire que ça nous touche pas, parce qu'on est loin, mais ça touche d'autres personnes dans d'autres villes pour des situations similaires. Et donc, si, Paul, t'es un citoyen de Rouyn-Noranda, et tu sais aujourd'hui que ta maison ou ta ville ou tes enfants sont exposés à de l'arsenic de façon disproportionnée, puis qu'on te promet d'ici 5 ans que ça va bien aller, mais que ça va être encore élevé, t'as une maison proche de l'usine ou des vents défavorables ou dans les environs, veux pas, t'as une perte de valeur. La ville, implicitement aujourd'hui, a une tache sur son image, comme Saint-Amable avait eu quand il y avait eu les pneus ou Saint-Basile-le-Grand avec l'entrepôt de BPC. Mais ça, c'était des éléments qui étaient ponctuels, ça revenait pas. Là, ici, on parle vraiment d'une situation où est-ce que la ville est exposée. C'est pas la seule ville, là. Il y a d'autres villes qui sont exposées. Mais là, publiquement, pendant des semaines, on dit à Rouyn, l'air est toxique. Et on fait mal au tourisme, à des gens qui n'étaient pas à Rouyn-Noranda, qui pensaient accepter un poste à Rouyn-Noranda, puis qui disaient, c'est-tu quoi? Pas sûr que je vais m'acheter une maison à Rouyn-Noranda. Et la population locale, moi, je m'excuse, mais si j'étais sur le bord d'avoir des enfants, j'avais des jeunes enfants, j'aurais un sérieux problème moral. Est-ce que je reste dans ma situation, j'expose mes enfants un peu plus sur ma propre santé. Personnellement, je pense que ça vient de mettre une tache sur Rouyn-Noranda, sur les maisons, de la même façon que quand tu arrives dans l'est de Montréal, tu es à côté des raffineries, les maisons étaient moins chères. Parce que c'est pas un cas isolé. Quand au Québec, puis il y en a dans toutes les villes, là, une usine dégage des substances, des odeurs, des polluants, du bruit, ça fait perdre la valeur marchande à ce qui est autour. Mais quand on sait qu'il y a des émanations toxiques qui sont au-delà de ce qui est tolérable, ben, les citoyens peuvent s'inquiéter. Tu sais, ceux qui ont de la mémoire, il y a des usines qui dédommageaient les employés ou les citoyens autour pour nettoyer des maisons ou pour changer la peinture de la voiture. Quand tu sais que le matériel non humain s'use autour de l'usine ou est exposé, pense à ce que tu vis. Et donc, c'est la même chose partout. Et je vais citer Gabriel Nadeau-Dubois parce qu'il y a effectivement une bonne phrase. Si l'usine était à Westmount, ce serait réglé. Mais en même temps, historiquement, ce ne serait pas arrivé.
Dans beaucoup de villes du Québec, on le sait, on a installé des usines, par exemple, près des cours d'eau. Hein, ça dépend des enjeux géographiques. Et dans ce temps-là, ben les gens vivaient autour de l'usine, oui. Tu comprends? Puis on bâtissait, puis les quartiers, moi j'en ai vu plein de villes.
On marchait jusqu'à l'usine.
Ben oui.
Tu sais, Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Henri, c'était ça, là.
C'est sûr. Puis, mais là, on est en 2022, puis c'est tout le mystère qui a entouré cette question-là. Tu comprends? C'est que depuis quand on le sait, là, puis là, je reprendrai pas toutes les questions, là, je vais faire le gars de la compagnie tantôt, mais tu dis, OK, là, Rouyn-Noranda, si t'as raison, est stigmatisé par ça.
Mais je vais donner trois raisons pour lesquelles l'entreprise fait quelque chose aujourd'hui. Un, ne pas vivre les poursuites des citoyens et des employés à la Irene Brockovich. Pouvoir maintenir ses activités. Puis la troisième, c'est maintenir sa réputation et la valeur de l'entreprise. Une entreprise, ça n'a pas nécessairement de cœur. Ça a des chiffres, ça a de la valeur. Le but de l'entreprise, c'est de maintenir ses activités. Et donc, on aurait pu faire de quoi avant, Paul? On aurait pu. Mais quand c'est pas exigé.
C'est ça. Quand t'as pas de pression.
Quand t'as pas de pression, tu sais, maman vivait sur la Uris Park à Valleyfield, en face. Puis quand je te dis en face de l'usine, là, c'était pas à quelques mètres, c'était à quelques pieds, là. Puis toute leur vie, ils ont vécu, tu sais, les contre-coups de ça. Mais aujourd'hui, t'accepterais plus ça. Donc, qu'est-ce que l'usine ou la fonderie va faire pour compenser tout ça?
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Parlons d'un programme, là, le programme, dans le fond, pour aider les jeunes à avoir accès à la propriété, leur première maison.
Oui, j'en ai parlé un peu avec Patrick, mais je vais t'amener sur un point, c'est le CELIAP, hein, le CELI pour l'achat d'une première propriété qui était présenté dans le budget. Et là, sur le site du ministère des Finances, il y a une phrase qui m'intéresse, parce que là, on va pouvoir mettre 40 000 piastres de cotisation, l'équivalent REER, déduire, mais les retirer. C'est-à-dire que contrairement au RAP, tu vas pouvoir les retirer sans payer d'impôts. Puis là, il y a une nouveauté qui apparaît, c'est un particulier ne serait pas tenu de demander une déduction pour l'année d'imposition au cours de laquelle une cotisation est versée. En français, ça veut dire que pendant 15 ans, tu peux cotiser à ton CELIAP et déduire quand tu veux. OK? Évidemment, avant l'achat de la maison, là, mais quand tu vas le retirer, il faut que tu le retires avant l'achat de la maison. Mais le CELIAP, lui, te permet une déduction supplémentaire. Puis là, moi, je suis CPA, Paul, d'envie. Puis là, je commence à trouver que il y a beaucoup d'instruments mis en place par le gouvernement en silo. Vraiment en silo. Tu sais, un par un. Mais quand tu les mets tout ensemble, on dirait qu'ils réfléchissent pas.
Parce que
si aujourd'hui, tu es un travailleur autonome, incorporé, un médecin ou bien simplement un entrepreneur, et que tu as dans ton portefeuille la possibilité de déduction REER, la possibilité de déduction CELIAP, la subvention pour le REE, le CELI à l'abri de l'impôt. Puis tout ça, il y en a certains de ces instruments-là qui ont des déductions qui te permettent d'augmenter tes allocations canadiennes pour enfants. Ben, je t'avertis tout de suite que dans quelques années, avec les entreprises incorporées, c'est déjà le cas, mais tu en ajoutes une couche, il y a des gens qui vont optimiser leur fiscalité pendant 5-10 ans. Puis t'as des médecins, t'as des millionnaires ou des entrepreneurs, travailleurs incorporés, qui vont se faire aider par l'État pour leurs enfants parce qu'on commence à leur mettre trop d'outils dans les mains pour déduire. Et là, c'est un outil intéressant pour deux types de personnes. Des jeunes qui commencent dans la vie parce qu'ils vont pouvoir déduire 40 000 de leurs revenus sans jamais être imposé dessus. C'est vraiment de l'évitement fiscal si tu t'achètes une maison. Fait que, techniquement, un jeune, on lui dit aujourd'hui, achète-toi une maison parce que tu vas pouvoir déduire. Puis, les personnes qui se séparent vont avoir le droit à cet instrument-là aussi. Et donc, il y a des gens qui vont pouvoir avoir une déduction de 40 000 qui sont à loyer puis séparés depuis 5 ans s'ils s'achètent une maison. Et pour vrai, au niveau fiscal, il y a une grande réflexion collective à avoir. C'est beau le cadeau, là, mais au niveau total, on va payer la facture.
Merci, monsieur. Salut. Bonne fin de semaine. Salut.
C'est 23.